France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, j'accueille Yves Duteil qui fait paraître Chemin de liberté, double titre pour un livre de souvenirs et une anthologie de ses plus belles chansons. Yves Duteil à ce micro reviendra sur ses débuts au Petit Conservatoire, la consécration de son album Tarentelle, mais aussi son engagement pour la langue française, ses amitiés avec Raymond Devos ou Véronique Sanson. Il sera à mes côtés dans quelques instants. En fin d'émission, Serge Elaïc nous parlera des musiques de Charlie Chaplin, mais surtout, surtout, sous le ciel gris qui nous menace, évitez de vous donner rendez-vous sous la pluie.
Pourquoi m'avoir donné rendez-vous sous la pluie? Petite aux yeux si doux, trésor que j'aime. Tout seul comme un idiot, j'attends et je m'ennuie, et je me pose aussi quelques problèmes. Pourtant on s'est connu par une claire nuit. Le ciel était si doux, la mer si belle. Mais voilà ce soir, j'ai froid et je m'ennuie. Pourquoi m'avoir donné rendez-vous sous la pluie? J'ai mes chaussettes qui font trempette. J'ai des frissons de la tête aux talons. Et dans la brume, j'attrape un rhume. Combien de garçons sont-ils morts de cette façon? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Nino! Pourquoi m'avoir donné rendez-vous sous la pluie? Petite aux yeux si doux, trésor que j'aime. Tout seul comme un idiot, j'attends là et je m'ennuie, et je me pose aussi quelques problèmes. Pourtant on s'est connu par une claire nuit. Dans tout le casino, c'était la fête. Pourquoi m'avoir dit oui tout en baissant la tête? Pourquoi m'avoir donné rendez-vous sous la pluie?
Bon, c'est plus la peine d'attendre. De toute façon, elle ne viendra pas. C'était Jean Sablon, vous avez reconnu sa belle voix dans cette chanson, accompagnée par son ami Django Reinhardt. Même si la chanson d'ailleurs avait été en fait écrite par deux autres, Charles Trenet et Johnny S. Un enregistrement donc de 1935. Mais je vous propose tout de suite de filer du pays de la pluie au pays du mambo avec cette musique que j'adore pour ses mélanges d'énergie sauvage et d'étonnant silence inattendu.
Thank you.
le fameux Mambo numéro 8 du grand Pérez Prado. Voilà un des morceaux que vous pouvez retrouver dans le disque d'or de la musique latino qui vient de sortir chez Marianne Melody. Une très bonne compilation, comme souvent chez Marianne, dans cette collection des disques d'or, où vous pourrez retrouver à la fois les grands classiques de cette musique, du Mambo et autres, comme Pérez Prado ou Xavier Cugat, et puis ce qu'on appelle les orchestres typiques qui ont repris à leur façon tout ce répertoire, comme Norman Maine, Alix Combel, Noël Chibouste et beaucoup d'autres. C'est le disque d'or de la musique latino qui vient de paraître donc chez Marianne Melody.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais nous avons rendez-vous sans plus attendre avec une grande figure de la chanson française depuis le début des années 70. On a tous encore dans la tête certains de ces tubes de Tarentelle jusqu'à la langue de chez nous. Et il sort simultanément, eh bien, un livre, Chemin de liberté, et une compilation discographique sous le même titre de ses plus grands succès, avec aussi beaucoup d'inédits. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Yves Dutheil.
Je nous revois main dans la main, au tout début de ce chemin, sur les marches de la mairie. Tu venais de m'offrir ta vie. Cette orchidée dans tes cheveux, je l'ai toujours devant les yeux, chaque matin et chaque soir. Dans ton sourire et ton regard, on donnait pas cher de nos peaux. Cet amour semblait bien trop beau pour résister au quotidien, à l'épreuve du lendemain. J'ignore encore par quel sentier on a franchi tous ces étés et quel détour on a pu faire pour survivre à tous ces hivers. Mais j'apprends sans cesse à t'aimer, à mieux lire dans tes pensées, à trouver des chemins secrets pour qu'on s'y perde à tout jamais. Il nous reste encore tant à faire avant de quitter l'univers qui nous a fait nous rencontrer pour pouvoir tout recommencer. Qui mêle à notre insu des milliers de pas éperdus ne sont pas le fruit du hasard. Il fallait qu'on s'y trouve un soir, tous les deux sur la même route, à la croisée des mêmes doutes, pour nouer le fil de l'histoire. Je l'ai su au premier regard. La nuit qui nous a mis à nu aura fait de deux inconnus des amants pour la vie entière. Depuis, je vis dans ta lumière. 40 ans plus tard, je t'aime toujours, plus fort encore qu'au premier jour. Même sous d'autres latitudes, au plus fort de la solitude, si ton chagrin croisait le mien, le hasard n'y serait pour rien. J'y suis prêt, 40 ans plus tard, l'émeraude dans ton regard qui m'avait guidé comme un phare n'a jamais quitté ma mémoire. Plus amoureux qu'au premier jour, et jusqu'au soir de cet amour, je marcherai sans le savoir vers la suite de notre histoire. 40 ans plus tard, je t'aime toujours, plus fort encore qu'au premier jour.
Bonjour Yves Dutheil.
Bonjour Benoît.
J'avais vraiment envie de commencer l'émission avec cette chanson parce que votre livre Chemin de liberté, il commence un peu sur le même sujet justement, par un hommage ou une chanson tendre en tout cas sur cette femme, Noël on peut dire, c'est
oui,
elle
oui, oui, c'est tout à fait ça.
Avec laquelle vous vivez depuis bien longtemps maintenant et qui est voilà au cœur de votre vie, on le comprend hein, en lisant ce livre, elle est partout avec vous, c'est même on pourrait dire un bel exemple d'une histoire de fidélité amoureuse, c'est pas si fréquent de nos jours.
Bah, vous savez, elle m'a élu homme de sa vie,
oui.
Et à une voix près, je loupais le titre.
Ah ouais.
Donc j'ai de la chance.
Oui, vous avez de la chance, parce que c'est vraiment une histoire magnifique que vous évoquez donc, dans cette chanson qu'on vient d'entendre. 40 ans, c'était les années 70, c'était le temps de vos premiers grands succès.
Ah, c'était avant le temps de mes grands succès. En fait, le succès n'est arrivé qu'après, après l'arrivée de Noël. Et quand on s'est rencontrés, elle avait pas du tout vocation à gérer une carrière d'artiste. Moi, je commençais tout juste, 72, 73, c'était la mort de ma maman, c'était mon deuxième 45 tours. Enfin, j'étais vraiment dans une phase d'évolution très, très première, je dirais. Ouais. Donc, j'avais encore rien prouvé, j'avais encore rien fait. Et elle est intervenue à partir du premier album, en fait, quand j'ai publié L'Écritoire, La tendre image du bonheur, toutes ces chansons du premier album en 75.
Voilà. Voilà. Et là, vous lui rendiez hommage, on peut dire, oui, dans cet enregistrement public, hein, tourné 2019-2020, oui. Où vous vous accompagnez, c'est important de le signaler, vous-même au piano, vous qu'on voit aussi souvent comme l'homme à la guitare, là, vous êtes l'homme au piano. Hein.
Ben, je me suis réaffûté au piano, à la vérité, au fil des concerts, et j'ai finalement maintenant la totalité des morceaux piano et des morceaux guitare, ce qui donne à cet accompagnement un côté peut-être plus cohérent avec ma voix, puisque les deux intentions se croisent dans le spectacle, comme dans l'écriture, comme dans la vie. Et ce début de carrière a été marqué par nos choix avec Noël. Je n'étais pas célèbre, je n'étais pas connu, je débutais, et elle a accompagné ma carrière depuis le tout début. On est devenu un couple, vraiment, autant dans la vie que dans la famille, que dans le métier. Je dirais que j'ai été frappé par, aujourd'hui, hein, par l'écriture de livres de Christian Bobin, les lettres à Laurence, oui. de Jacques de Bourbon-Busset, parce que ceux-là ont eu la malchance de perdre l'amour de leur vie et ils ont écrit après. Ouais. Et moi, je voulais pas écrire après, je voulais écrire pendant cette histoire d'amour, ce qu'elle m'inspirait. Et c'est pour ça que j'ai écrit une quarantaine de chansons sur Noël, en plus de celles qu'elle a inspirées par des conversations très profondes, souvent très longues, nocturnes souvent, et on n'a jamais cessé de se parler. Il y a beaucoup de chansons qui sont nées de ces conversations.
Ça m'a amusé d'ailleurs justement que vous citiez dès le début de votre livre Jacques de Bourbon-Busset, ce grand écrivain, membre de l'Académie française, qui a effectivement consacré toute une partie de son œuvre à cette femme qu'il adorait mais qu'il avait perdue.
Et je pourrais en fait faire ça avec Noël. Parce que tous les jours, il y a quelque chose qui me donne le sentiment d'être lié au fait d'avoir reçu à travers elle cette dose d'amour dont j'ai besoin.
Et on le comprend, alors dans ce livre Chemin de liberté, votre nouveau livre, Yves Duteil, en forme, on peut le dire, d'autobiographie, très, très joliment écrite, vous parlez de votre vie, on pourrait dire de votre carrière de chanteur, même si le mot n'est pas très joli, mais vous parlez de plein d'autres choses, hein. C'est pas seulement l'histoire d'un chanteur, c'est l'histoire d'un homme, là, et de toutes les expériences de la vie et de l'amour, comme on vient d'entendre, mais aussi de la vie active, de l'engagement, etc. Tout ça est très important dans le livre.
En fait, j'ai commencé en essayant d'écrire des jolies chansons. Hein, Lila pour Eulalie, Lucille et les Libellules, Tarentelle, Le Petit Pont de Bois, toutes ces chansons qui m'ont donné la possibilité de rencontrer le public. Et à la fois le grand public, puisque ce disque-là, qui a été celui de l'éclosion de ma carrière, c'était le troisième album, en fait. Et à un moment donné, effectivement, j'ai trouvé que ça suffisait pas. Qu'il fallait aussi être légitime dans le succès et justifier l'utilité de ce qu'un homme avait à défendre en dehors de ce qu'il a à écrire. Voilà. Et j'ai commencé à m'engager, effectivement.
Et vous donc, en parlez beaucoup, et on va y revenir, hein, dans ce livre, de multiples engagements de citoyens, d'artistes, etc., d'amis de la francophonie, merci, entre autres. Mais bah, je propose, c'est un peu la règle dans cette émission, Yves Duteil, qu'on commence par remonter un peu loin dans le temps, avec une chanson qui, à mon avis, va vous évoquer quelques souvenirs d'enfance.
Toi, ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Toi qui bouleverse, toi qui renverse tout ce qui était ma vie. C'est toi, ma petite folie. Toi, ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Toi qui bouleverse, toi qui renverse tout ce qui était ma vie. Tu es un garçon curieux, j'ai bien dû m'y faire, car tu m'as mis la tête à l'envers et tout est merveilleux. C'est toi, ma petite folie, toi, ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Toi qui bouleverse, toi qui renverse tout ce qui était ma vie. J'ai perdu mon vieux défaut de trouver bizarre que tu te lèves à minuit et quart pour accorder le piano. Toi, ma petite folie, toi, ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Toi qui bouleverse, toi qui renverse tout ce qui était ma vie. Quel cadeau du jour de l'an penses-tu me faire? Vas-tu m'offrir un hélicoptère ou un éléphant blanc? Toi, ma petite folie, toi, ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Toi qui bouleverse, toi qui renverse tout ce qui était ma vie. Quand on reçoit tes copains, ils demandent sans malice si le dîner a lieu dans l'office ou dans la salle de bain. Toi, ma petite folie, toi, ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Toi qui bouleverse, toi qui renverse tout ce qui était ma vie. Mais je t'aime à la folie. Là là, oui, je t'aime à la folie.
Oh, vous n'étiez pas bien vieux, Yves Duteil, en 1952. Hein,
quand j'avais 3 ans.
Quand Lynn Renaud a sorti cette chanson, mais elle est entrée au répertoire populaire de l'époque, si bien que je crois, quand vous aviez une dizaine d'années, vous la chantiez en public, en famille.
Bah, en fait, ma maman m'emmenait au marché, et à la crèmerie de la rue de Lévis, d'un coup, voilà, elle m'a dit, mais il chante, et elle m'a demandé de chanter Ma Petite Folie. Dans la crèmerie, en achetant ses œufs et nos petits suisses. Et donc, Lynn n'a jamais vraiment su, à ce moment-là, qu'elle avait été à l'origine de mon premier concert.
Voilà, c'est ça.
Je lui ai dit depuis, d'ailleurs.
Parce c'est qu'on vrai, ça a dû la faire sourire.
Ah, oui, oui.
Voilà, en tout cas, vous avez une vocation de chanteur dans ce 17e arrondissement que vous venez de citer, parce que ça a été très important. Et c'est très joli, d'ailleurs, dans votre livre, dans ce moment de votre vie, cette enfance et cette bijouterie familiale du Carillon d'Or, où on faisait un travail extrêmement minutieux et où toute la famille se retrouvait, en quelque sorte. Hein.
Oui, alors c'était le lieu, dans le fond du magasin, il y avait un petit couloir sombre qui emmenait jusqu'à l'atelier de mon oncle Jean, qui démontait les montres, qui avait le secret des rouages, qui a complètement perdu en fait cette notion quand on a commencé à mettre des LED et des écrans cristaux liquides, etc. Là, il était changé des modules, ça n'intéressait pas trop. Mais par contre, nous, on a passé toute notre enfance à démonter des vieilles montres.
Extraordinaire.
Et à voir que l'axe d'un rouage est posé sur un rubis, pour ne pas avoir à être lubrifié, pour pouvoir librement aller et venir dans un sens puis dans l'autre. Et en fait, on a appris des tas de choses comme ça sur la façon dont les choses se font. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à utiliser des objets sans savoir comment ils fonctionnent. Nous, on a toujours, avec mon grand frère, pris l'habitude d'essayer de comprendre comment ça marche.
Voilà.
Donc, il lisait le haut-parleur, il lisait Science et Avenir, Science et Vie. Et moi, je continue à m'intéresser.
À avoir cette curiosité, voilà. Ah oui.
Et en fait, j'ai reçu un courrier très émouvant, très récemment, d'un monsieur qui me dit, vous savez, moi j'ai grandi en face du Carillon d'Or. Ouais. Ma vie a été rythmée par ce carillon qui était suspendu devant la devanture du magasin et qui donnait l'heure, la demi, le quart. En fait. Et il me dit, ça a été ça pendant toute mon enfance, mais ça a été ça aussi après, dans mon âge adulte, quand je partais au studio, rue Conéagget, pour mettre en scène les émissions de Nounours et Paprelat et Nicolas. Pom, 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 pom.
Oui, bien
voilà.
Sûr. Ben,
c'était Jacques Samin. C'était le réalisateur de l'émission de Nounours, Bonne nuit les petits. C'est incroyable.
Ouais. Alors, en tout cas, voilà, votre jardin extraordinaire, c'était le parc Monceau. Votre famille, vous en parlez très joliment dans ce livre. Et puis, finalement, la musique s'est imposée. Après, quand même, des débuts d'études de droit, hein, vous avez failli vous engager dans une voie très sérieuse avant, finalement, de devenir chanteur.
En fait,
à la faveur, peut-être, du climat de mai 68, qui était là aussi très présent.
Moi j'ai envie de vous dire, j'ai toujours été moi. Ouais. Donc, ce qui a survécu toujours, quoi qu'il arrive et quelles que soient les circonstances, ça a été la musique, ça a été le partage de la musique. Ouais. Et j'avais gardé ça comme l'idée en bruit de fond que ça allait être probablement une grande partie de ma vie, sans être mon métier, parce que mes parents rêvaient de toute autre chose pour moi.
Voilà, la bijouterie par exemple.
La bijouterie et le commerce, donc études de commerce. Moi, faire de la comptabilité, c'est de la rigolade, quoi. J'ai donc suivi ce que m'ont demandé de faire mes parents. Passer mon bac, commencer des études de sciences éco et droit, plus par élimination que par choix. Et puis, pendant le même temps, je continuais avec le piano, je commençais avec la guitare, j'ai commencé à écrire des chansons. Enfin, tout s'est passé en parallèle.
Et vous évoquez aussi, d'ailleurs, dans votre livre, un certain nombre quand même de rencontres qui ont été importantes dans ce démarrage. Je voudrais au moins en citer deux. Il y a un guitariste qui s'appelle Guy Lukowski.
Ah oui. Guy, en fait, c'est la rencontre du néophyte de la guitare que j'étais, voilà, avec le virtuose.
Un vrai virtuose. Hein, voilà.
Dont je regardais les mains avec fascination et qui m'a appris mes premières gammes, à délier en fait mes doigts sur le manche de la guitare. Ouais. Un jour, il m'a demandé de le remplacer à Paris dans un spectacle qu'il ne pouvait pas faire pour les fêtes de fin d'année, dans un cabaret qui s'appelait La Resserre au Diable, qui, sous ce nom un peu barbare, cachait simplement une réserve de chariots.
Voilà. Hein. Et donc, c'était près des Halles.
C'était près des Halles. Ouais. Et c'était Geneviève Bailhac, l'auteur de La Famille Hernandaise, qui était là et qui programmait des spectacles. Et en fait, pour remplacer Guy, je suis allé me présenter à Geneviève, qui a dit, mais c'est très intéressant. Et elle a écrit un spectacle qu'on a joué avec Olivia Orlandi et Cléo Berger, qui étaient justement des actrices de La Famille Hernandaise. Et c'est comme ça que j'ai commencé à monter pour mes premiers pas sur scène.
Puis il y a un autre personnage que je voulais citer parce que je l'aimais beaucoup, et puis il a écrit des si jolies chansons qui vous a encouragé, je crois, c'était Frédéric Botton, grand auteur de chansons françaises.
Et ben ça s'est passé au même endroit. Voilà. C'est là que j'ai rencontré Frédéric Botton, qui rendait visite à son amie Geneviève Bailhac. Comme quoi les choses ont un ordre, on a l'impression que c'est prémédité par le destin, quelque chose qui se prépare en coulisses, vous savez pas trop pourquoi, comment vous rencontrez un tel, et puis il y a un autre événement qui en découle. Et ben là, il m'a dit, alors vous chantez? Ben oui, en fait, j'étais dans le spectacle, puis je remontais au rez-de-chaussée pour un moment où je n'étais plus sur scène, et là, je croise Frédéric Botton avec Geneviève.
Auteur de La Grande Zoa, entre autres.
Voilà, et de chansons pour Régine, pour Gilles Gréco. Voilà. Et donc il me dit, bah écoutez, venez me montrer vos chansons comme ça, mais simplement voilà mon numéro de téléphone, appelez-moi. Et donc quelques jours après, je l'ai appelé et je suis allé lui montrer, et entre autres un début de chanson qui s'appelait Virage.
Voilà, justement.
Et il me dit, mais celle-là, il faut la finir, absolument. Donc je finis la chanson et il me donne une date de studio et je me retrouve devant 40 musiciens avec Alain Goraguer, que je salue, que je remercie, que je bénis d'exister au monde.
Il est toujours là, notre cher Alain Goraguer.
Et qui m'a permis en fait d'enregistrer ma première chanson avec un orchestre symphonique. Et moi qui avais jusqu'à présent joué tout ce que j'écrivais avec juste ma guitare, c'était un moment incroyable, exceptionnel.
Et je dois dire, après vous avoir lu, donc je me suis précipité sur Virage pour réentendre justement ce travail extraordinaire qu'a fait avec vous Alain Goraguer. C'est une belle orchestration, vraiment.
Ah ben c'était une orchestration cinématographique, je dirais.
Voilà, c'est ça.
Et ça me fait penser à une petite fille en pleurs dans une ville en pluie, et moi qui tourne en rond, le numéro.
Mes paupières s'alourdissent un peu, mais dans un kilomètre ou deux, après le virage au village, dans un petit bar, il y a du feu. Toi tu dors depuis l'autoroute, fatigué, énervé sans doute, plus qu'un kilomètre peut-être, puis du café auprès du feu. Je regarde un instant vers toi, tu es presque appuyé sur moi. Un virage à droite, un peu sec, qui te plaque à moi. Je voudrais que ce virage n'en finisse pas. Je redresse doucement, sans à-coup, ton visage sur mon cou. Passeront les jours et les semaines et les années, tant que je t'aurai à mes côtés. Dans chacun des gestes de la vie, je t'aimerai aussi. Passeront les jours et les semaines et les années, tant que je t'aurai à mes côtés. Dans chacun des gestes de la vie, je t'aimerai aussi. Dans une heure, on y verra mieux. Le brouillard se dissipe un peu. L'essuie-glace passe et repasse en laissant des traces devant mes yeux. Des lumières au travers des phares. Le village est là-bas, le bar. Retenant ta tête, je m'arrête sur le bas-côté, près du café. et dans un bruissement d'abeilles, le silence peu à peu t'éveille. Je me sens vidé, fatigué, mais si près de toi. Je voudrais que ce voyage n'en finisse pas. Tu souris brusquement, sans un mot, la main glisse dans mon dos. Passeront les jours et les semaines et les années, tant que je t'aurai à mes côtés. Dans chacun des gestes de la vie, je t'aimerai aussi. Passeront les jours et les semaines et les années, tant que je t'aurai à mes côtés. Dans chacun des gestes de la vie, je t'aimerai aussi. Les jours et les semaines et les années, tant que je t'aurai à mes côtés. Dans chacun des gestes de la vie, je t'aimerai aussi. Passeront les jours et les semaines et les années, tant que je t'aurai à mes côtés. Dans chacun des gestes de la vie, je t'aimerai aussi.
Virage, le premier succès, on peut dire, hein, quand même, d'Yves oui. Dutheil. Moi, je connais cette chanson depuis toujours.
C'était ma première aventure musicale professionnelle, je dirais.
Voilà, avec ce très bel enregistrement. Mais alors, d'ailleurs, à l'époque, vous aimez Paul Narev, je crois, et vous êtes plutôt dans une tradition de la variété française qui est encore assez éloignée du chanteur à guitare que vous serez un peu après, peut-être plus dans le sillage de Brassens ou d'autres voix.
Ben ça, c'est un peu l'image qu'on en a à travers les chansons les plus connues. Oui, si on regarde l'exploration en fait de l'éventail des chansons de l'époque, c'était de la recherche. Ouais. Il y avait tout le temps, dès ce début de chanson, en fait, cette première orchestration, cette première entrée dans le monde professionnel, ça a été une recherche à chaque fois de ne jamais refaire ce que j'avais déjà fait. Et donc, très difficile de définir un style avec ça. Et puis, peu à peu, j'ai été d'abord une éponge. J'ai absorbé tout ce que j'entendais. J'étais capable, en fait, de chanter tout ce que j'entendais à la radio avec ma seule guitare, de choper comme un guitariste amateur le petit élément essentiel qui fait l'originalité d'une orchestration sur une chanson d'un autre. Et puis, ben, j'ai essayé de construire sans m'en rendre compte. Quelque chose qui soit différent à chaque fois et intéressant.
Et puis d'emblée, on peut dire, c'est aussi votre marque de fabrique, en tout cas par rapport à d'autres, vous avez tout de suite été le plus souvent auteur, compositeur, interprète.
Oui, parce que personne voulait chanter mes chansons.
D'accord.
Donc c'était un peu, j'étais un peu obligé de les exposer. Et cette opportunité que m'a offert Frédéric Botton de me retrouver en studio avec 40 musiciens, ça a été un tremplin extraordinaire. Ouais. Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Et au fil du travail, j'ai rencontré Jean Musy. Et voilà. Jean Musy a eu une énorme importance à ce moment-là dans ma façon de travailler.
Et le Petit Conservatoire, ça a compté beaucoup pour vous ?
Bah, c'était quand même une des seules portes d'entrée possibles pour aller directement de ma chambre à un studio de télévision. Parce que Mireille, toute sévère qu'elle était.
Elle était sévère.
Toute dure et impitoyable avec ses
élèves.
Vous étiez
un chouchou ou pas ?
Ah non.
Pas du tout.
Ah ouais. Non. En fait, elle a vu que j'aimais bien la bossa, donc elle m'a demandé des bossas. Et elle a vu que j'aimais bien les duos, donc elle m'a demandé des duos. Alors moi, je faisais des bossas et des duos pour passer à la télé et à la radio.
Et là, parmi vos copains, si on peut dire, de classe, il y avait un certain Pierre Vassiliu. En tout cas, il est passé lui aussi par le Petit Conservatoire. Et vous m'avez fait plaisir parce qu'en préparant cette émission, vous avez cité une chanson de Vassiliu qu'on va écouter maintenant et qui est très jolie.
Qui est une des plus belles chansons que je connaisse.
Amour, amitié.
Mais elle a eu un seul amant et ne se souvient plus du tout du goût du baiser dans le cou. Elle me demande de l'embrasser, je ne sais plus si c'est déplacé et je suis bien embarrassé, même juste comme ça, un baiser. Amour, amitié, je ne sais pas si par dépit ou par pitié je franchirai cet océan qui va de l'ami à l'amant. Elle pose la main sur ma joue et ma pudeur en prend un coup. C'est fou, elle pense surtout que parfois on ferme les yeux, j'y vois des petits vaisseaux bleus qui houlent et naviguent sans cesse, gonflés d'amour et de tendresse. Amour, amitié, je ne sais pas si par dépit ou par pitié je franchirai cet océan qui va de l'ami à la mort. Il fait très chaud depuis une heure, mais elle a gardé son manteau de peur que je lui voie la peau. Ce qu'elle demande est redoutable, car parfois la bouche est capable de faire frissonner, et bien plus, cela elle ne s'en souvient plus. Amour, amitié, je ne sais pas si par dépit ou par pitié, je franchirai cet océan qui va de l'ami à l'amant. Mais elle a eu un seul amant et ne se souvient pas encore du corps qui se plie et se tord. Si elle a oublié les gestes de cet amour raté, du reste, elle se souvient par ailleurs du coup de couteau dans le cœur. Amour, amitié, je ne sais pas si par dépit ou par pitié, je franchirai cet océan qui va de l'ami à l'amant, qui va de l'ami à l'amant.
Amour, amitié par Pierre Vassilou. Une chanson, Yves Duteil, que vous avez d'ailleurs enregistrée vous-même. Hein.
Oui, à une époque où Atlas avait créé une collection de un tel chanté par quelqu'un d'autre. Enfin voilà. Et donc moi j'avais choisi de chanter celle-là aussi.
Pourquoi vous ne chantez pas que Yves Duteil, mais beaucoup d'autres auteurs et compositeurs de chansons. Alors vous avez évoqué il y a quelques minutes justement le tournant ou le nouveau départ, en tout cas le bond en avant, si j'ose dire, qu'a représenté l'album Tarentelle et la rencontre aussi avec notamment un directeur artistique et puis un arrangeur, Jean Musy. Ça a été vraiment quelque chose de très important, hein, que ce disque dans lequel il y a quand même trois énormes tubes par lesquels tout le monde vous connaît depuis toujours. La guitare qui me démange, la tarentelle et prendre un enfant.
Et en fait, on ne dira jamais assez l'importance du directeur artistique et de l'orchestrateur. Alors, juste, j'essaie de voir rapidement parce que Jean Musy a dessiné un paysage musical qui me ressemblait, mais en profondeur et en altitude, je dirais. Il a créé des cordes, des petits événements d'orchestre avec des bois, avec
parfois
des
vents. Parfois très discret, mais très joli. Très joli,
parfois avec une harpe. Lily Laskin a joué sur une chanson qui s'appelle « Le temps s'écrit sur ton visage », elle qui était aussi ridée qu'il est possible de l'être. C'était incroyable qu'elle enregistre avec nous cette chanson. Et donc, Jean avait toujours une idée d'avance. J'adorais son côté improvisateur qui était d'arriver en finissant l'écriture de l'arrangement de Quatuor dans le taxi, enfin voilà. Et donc, Claude Dejac, d'autre part, qui était aussi le directeur artistique de Jean-Michel Caradec, de Nicolas Perrac, de Nicole Croisy, de beaucoup d'artistes de ma génération aussi, et qui avait ce talent d'attraper au vol une version de travail en ne disant pas à l'artiste qu'il était en train d'enregistrer.
Ah oui, c'est beau ça, oui.
Alors, il y a beaucoup de ces versions de succès énormes, comme « Et mon père » de Nicolas Perrac, ou « Une femme avec toi » Nicole Croisy, qui sont des prises, par surprise, je dirais. Parce que l'artiste ne savait pas que cette prise était enregistrée. C'était une espèce de répétition.
Voilà. Mais il y a aussi Yves Duteil, quand même, dans tout ça. Parce que ce que je trouve merveilleux, notamment dans les grands succès de ce disque, c'est que vous avez trouvé une simplicité, un naturel dans la mélodie et les paroles, vraiment l'évidence de certaines chansons, et puis rythmiquement aussi quelque chose, par exemple dans la tarentelle ou dans la guitare, quelque chose de ternaire qui ressemble presque à des danses anciennes ou à des chansons un peu folk. Je sais pas comment c'est venu, mais tout d'un coup il y a quelque chose qui fonctionne merveilleusement.
Et alors je vais raconter pourquoi en fait c'est surprenant, c'est parce qu'en fait les musiciens soit ils jouent une partition binaire, soit une partition ternaire. Et ben moi ils m'avaient défini, j'étais trinaire.
Trinaire.
C'était ni l'un ni l'autre, c'était quelque chose d'un peu jailli de nulle part. Et un jour, on a réécouté la version de Tarentelle, comme ça, pour la mixer. On a écouté la voix d'un côté, la guitare de l'autre. J'en supprimais la voix, la guitare était inaudible. inaudible. Ouais. Donc j'ai essayé de la refaire en me disant il faut absolument qu'on réenregistre cette chanson. On a fait 40 versions de Tarentelle avec plus ou moins de bonheur. On n'est jamais arrivé à la cheville de la version d'origine qui était inécoutable si on écoutait séparément la guitare et la voix.
Ah oui, c'est drôle.
Parce que l'un jouait en fonction de l'autre. On n'est jamais arrivé à reproduire cette homogénéité, cette harmonie entre guitare et voix parce qu'elle avait été enregistrée guitare-voix, simplement.
Enfin, d'aller chercher une Tarentelle, fallait y penser comme c'était pas vraiment dans
la... Pourquoi ? Parce que j'avais entendu Le printemps est arrivé, sors de ta maison, de Michel Fugain.
Oui.
Je me disais, bon, lui, il a fait ça. Réplique. Ma revanche. Et ça a été la Tarentelle.
Voilà. Et puis, il y a cette autre chanson. Moi, c'était ma préférée à l'époque, donc en 1977. J'étais tout jeune, mais bah, pour le plaisir, j'ai envie de l'écouter. J'ai la guitare qui me démange. Et puis, il y a la chanson. Il y a d'abord ce côté vraiment chanteur à guitare. Un peu, je disais, peut-être ça, je crois que vous l'aimez, puisque vous le saluez dans votre livre, dans la tradition, un peu de Brassens, mais à votre façon. Et puis, tout d'un coup, c'est cette orchestration qu'on n'a pas chez Brassens, qui arrive et qui vient se mêler à la voix d'une façon merveilleuse et très, très subtile.
Alors je me suis beaucoup amusé en écrivant cette chanson qui m'a poursuivi parce que beaucoup de gens l'ont détestée parce qu'elle est obsédante.
Ah oui, mais c'est
en
ça
réalité,
que j'adore.
Écoutez bien le texte, tout ce que je dis dans le texte est vrai.
J'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Ça me soulage et ça s'arrange, mais ça fait pas très sérieux. Pardonnez-moi, c'est très étrange, ça me prend là où ça veut. C'est la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. J'aurais pu, c'est héréditaire, être officier d'état-major, archevêque ou vétérinaire, clerc de notaire ou chercheur d'or. Le hasard et la génétique en ont voulu tout autrement. J'ai mis les doigts dans la musique et c'est ainsi qu'à présent. J'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Ça me soulage et ça s'arrange, mais ça fait pas très sérieux. Dans l'industrie, l'électronique, le commerce et les assurances, j'avais des dons pour la pratique, oui mais côté référence. J'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Ça fait du bien dans les phalanges, mais ça fait pas très sérieux. Y'a rien à faire pour que ça change, faut se faire une raison. J'ai la guitare qui me démange, alors j'écris des chansons. J'ai appris à lire, à écrire, et je compte sur mes 10 doigts pour composer de doux délires, à partir de n'importe quoi. Ne croyez pas que je m'amuse, que je cours après les honneurs. Si je taquine un peu la muse, c'est pas pour les droits d'auteur. C'est la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Ça me soulage et ça s'arrange, mais au bout d'une heure ou deux. Quand je me prends pour un artiste, ça donne un résultat miteux. Ça me rend profondément triste, et quand je suis malheureux. La guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Ça me soulage, ça s'arrange, mais c'est un cercle vicieux. Y'a rien à faire pour que ça change, faut se faire à cette idée. J'ai la guitare qui me démange, alors j'essaie de chanter. J'ai consulté un spécialiste pour me guérir, mais sans succès. Il m'a dit, si le mal persiste, essayez de prendre un cachet. Avant même que je le comprenne, j'étais déjà devenu chanteur. Et c'est pour ça que sur la scène, entre les deux projecteurs, j'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Ça me soulage et ça s'arrange, et si c'est pas très sérieux. C'est la plus belle leçon de musique que j'ai reçue depuis toujours. C'est la meilleure thérapeutique quand j'ai des chagrins d'amour. J'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Ça me soulage et ça s'arrange, et quand je serai très vieux. À ma mort je veux qu'on m'installe avec ma guitare à la main. Si vous voyez ma pierre tombale qui gigote à la Toussaint. C'est la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Dans les nuages avec les anges et tout là-haut dans les cieux. Pardonnez-moi si ça dérange, ça me prend là où ça veut. C'est la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Y'a rien à faire pour que ça change, ici dans un jour ou deux. Y'a la guitare qui vous démange, alors c'était contagieux.
Yves Duteil en 1977, merveilleuse chanson, comme d'ailleurs toutes celles de ce disque et de vos autres disques. Mais Yves Duteil, précision technique, hein, toutes les parties de guitare, c'est vous qui les jouez.
C'est
hein.
Moi, oui, en re-re, avec les ta-da-da-da-da-da, les petits trucs derrière. Je me suis amusé, mais comme un fou, à faire cette chanson.
Et cette jolie voix, qui est la vôtre, vous l'avez travaillée, la voix, à l'époque?
Oui. Plus maintenant qu'à l'époque.
Plus maintenant qu'à l'époque.
Je pense que j'ai essayé de la garder, de l'entretenir, mais surtout de ne jamais me caricaturer. De jamais reprendre mes propres tics.
Vous n'avez jamais fait des vocalises ou des exercices
Ni des gammes.
Gammes, d'accord. Et puis, tiens, ça m'intéresse, je suis pas du tout passionné par les chiffres, mais un disque comme Tarentelle en 77, dont on connaît tous encore les chansons, à commencer par Prendre un enfant, ça, c'était un succès immense, ça représentait quoi, combien d'exemplaires vendus? Vous avez
1 300 000.
1 300 000, donc c'était un très gros succès, on peut dire.
L'album Tarentelle, 1 300 000. Et alors, c'était curieux, parce que quand j'avais signé le premier contrat d'album, il y avait une mention qui disait, au-delà de 100 000 albums, on passe à tant pour cent, etc. Je me disais, de toute façon, ça ne me concerne pas.
Ça n'arrivera jamais.
Et en réalité, je me suis rendu compte qu'on pouvait être extrêmement heureux de quelque chose et extrêmement malheureux de quelque chose d'heureux.
Voilà.
Parce que vous vendez 1 300 000 exemplaires. Ouais. Forcément, vous n'allez pas rester au sommet de la vague pendant toute la vie. Ouais. C'est un travail à plein temps, ça.
Ouais, ouais.
Donc, le suivant, vous allez en vendre la moitié.
Ouais.
Et si vous vendez 700 000 albums, vous pouvez être malheureux de ne plus en vendre 1 300 000. Ce qui est quand même
c'est
un
terrible,
comble. C'est monstrueux. Donc voilà, c'est
là,
simplement pour faire remarquer qu'il
faut
garder quand même une certaine mesure.
Voilà. Il faut préciser aussi que dans cet album, donc la chanson Prendre un enfant, c'était pas du tout un des plus gros succès au moment du lancement de l'album. Hein.
Non, pas du tout. En fait, c'était la chanson entre guillemets en plus.
Oui.
J'avais fini l'écriture de l'album et puis j'ai eu cet élan de tendresse, d'amour sur une musique que j'avais écrite quelques jours auparavant et qui me plaisait beaucoup et que j'avais eu la chance d'enregistrer parce que je ne connais pas le solfège suffisamment pour noter mes mélodies, pour les écrire. Et donc j'avais gardé cette musique sur mon dictaphone et j'ai écrit la chanson comme en plus. Puis quand je l'ai enregistrée, j'ai enregistré comme ça, guitare-voix. Et après, c'est Jean Musy qui a habillé la chanson, ce guitare-voix avec des cordes, avec contrebasse, avec la beauté du paysage musical derrière. Mais en réalité, la chanson, elle est passée inaperçue. Parce que il y avait Tarentelle, il y avait ce petit pont de bois un peu mythique qui m'a donné cette image bucolique.
Voilà, c'est ça, un peu folk presque.
Voilà. Et en réalité, Monique Lemarcy,
c'est une femme de radio,
RTL,
voilà,
pour ne pas la citer. Elle est venue au spectacle du Théâtre des Champs-Élysées et là, dans la salle, elle a senti la réaction du public sur cette chanson. Elle a dit, je crois qu'on est passé à côté de quelque chose. Et elle-même, elle a ressenti la chanson autrement, puisque là, dans l'écran du spectacle, vous avez capté les gens complètement. Vous n'êtes plus dans le cadre d'une programmation. Le lendemain, elle a décidé de reprogrammer cette chanson comme une nouveauté, alors que le disque était sorti depuis 18 mois.
Voilà. Et que tout le monde n'était pas d'accord à RTL, d'ailleurs, pour qu'elle le fasse. Hein. Elle l'a imposé.
Elle a pris l'habitude d'imposer pas mal de choses me concernant et pour mon plus grand bonheur.
Et c'est devenu, donc, évidemment, votre chanson la plus célèbre, classée plus belle chanson de l'histoire de la chanson française. Il y a combien de versions, vous avez compté?
Non. Quand on aime, on compte pas. Non, mais effectivement...
Version chorale, symphonique...
Nana Mouskouri, John Baez... c'est vrai que j'ai eu cette chance.
Il y a une très jolie version aussi, où vous êtes en duo avec Didi Bridgewater.
Ah, elle fait des chœurs merveilleux derrière. Il y a une version en japonais aussi.
En japonais. Et puis à propos de duo, tiens, alors on va écouter un autre duo. Vous avez dit que vous étiez spécialiste des duos. Et c'est drôle parce que, justement, je m'étais dit, tiens, il a fait beaucoup de duos. Hein. Il y a Véronique Sanson, il y a Didi Bridgewater, etc.
Alors, Enzo,
Mireille l'avait donc déjà remarqué.
C'est vrai, absolument.
Et pour l'illustrer, j'ai choisi une chanson de cinéma que vous avez enregistrée. On en avait parlé avec elle, d'ailleurs, avec Jeanne Moreau.
Un souvenir merveilleux.
Oui. Ça s'appelait L'Adolescente, le film. Hein.
C'était la chanson de son film, L'Adolescente.
Comment elle vous l'a demandé?
Comme ça. Est-ce que vous voulez enregistrer cette chanson avec moi? J'ai dit oui. Et en fait, j'avais fait ni les paroles, ni la musique. On n'était rien pour cette chanson, simplement pour le plaisir d'enregistrer avec Jeanne. Et la chanson n'était même pas dans le film, puisque c'était trop tard pour le mixage du film. Mais ça a été quand même la chanson du film. Et c'est un des très très jolis souvenirs de ma vie.
Dis où est l'amour, le grand amour que j'attendais. Est-il dans une ville ou dans une île qu'on a perdue?
Il est dans le berceau des destins, à la croisée des chemins, sous les rameaux de jasmin, dans la chaleur de l'été, caché dans le creux des mains, tout près de la vérité.
Dis, c'est quoi l'amour, le grand amour j'attendais. Est-il un oiseau fou, un chien, un loup qui s'est perdu?
Il est un voyageur étranger, un solitaire messager qui vient pour tout déranger dans la chaleur de l'été. Il est la peur du berger qui garde la vérité.
Dis qui est l'amour, le grand amour que j'attendais. Est-il fort comme le vent, long comme le temps perdu?
Il est comme le trajet de la fronde, comme la course du monde, la mélodie de la ronde dans la chaleur de l'été. Comme les fleurs qui abondent tout près de la vérité.
Oui, c'est toi l'amour, le grand amour que j'attendais. Tu es l'ange, le fou, l'oiseau, le loup, jamais perdu.
Le duo Jeanne Moreau, Yves Duteil en 1979, très belle chanson. Donc vous parlez également, Yves Duteil, dans votre livre récemment paru « Chemin de liberté » aux éditions L'Archipel. Et puis je précise que en même temps que ce livre paraît un quadruple CD avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de vos chansons, choisies, j'imagine, par vous-même.
En fait, c'était la lecture du livre qui nous a imposé le choix des chansons.
Voilà, oui. Il y a
de page en page, on voyait sortir les chansons émerger du récit. Ouais. C'était incroyable. Et on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas la bande originale en fait,
voilà,
dans ce
du livre.
Livre.
Voilà, exactement. C'est ce qu'on essaie de faire aussi un petit peu ce matin. Vous évoquez aussi dans ce livre, évidemment, et vous l'avez dit il y a un instant, ces grandes salles de concerts, parfois classiques, qu'on comptait dans votre vie, comme le Théâtre de la Ville ou le Théâtre des Champs-Élysées, hein, en dehors des salles plus marquées par le showbiz.
L'Olympia.
Oui,
Théâtre,
voilà. Oui, oui.
C'est vrai. Mais, vous savez, le parcours d'un artiste, ce sont des rencontres. Et le public est une des grandes rencontres. Ouais. Mais quand vous vous retrouvez aussi au Québec, devant 150 000 spectateurs, là, vous vous dites, on est quand même en train de vivre un moment d'exception.
Ah, oui.
Et c'est arrivé quand même. Il y a des rencontres qui pesaient aussi lourd que ça, en étant avec une seule personne, avec Félix Leclerc, avec Gilles Vigneault, avec Brassens. Et... Ouais. Je trouve incroyable, au stade où j'en suis aujourd'hui, d'avoir eu toutes ces rencontres dans ma vie. En partant de cet ado que j'étais, avec son carnet jaune, un petit carreau et sa guitare sur son lit, ouais. D'en arriver à ça, quoi. C'est ça qui m'émerveille.
Il y a aussi des rencontres amusantes, d'ailleurs, avec Pierre Delanoë, par exemple, oui. Qui lui était un peu décalé de la chanson française de l'époque. D'ailleurs, il en disait beaucoup de mal, mais vous, il vous aimait.
Oui, oui, voilà. Oui. Et il a eu ce réflexe que j'ai retrouvé chez quelques grands de personnages de la vie, comme Raymond DeVos.
Oui,
Raymond DeVos qui m'appelle un jour pour dire, je voudrais vous remercier d'avoir écrit la plus belle chanson sur la langue française, venant de Raymond DeVos, que c'est un coup de fil comme ça,
ouais.
C'est le coup de fil de votre vie, quoi. Et Pierre Delanoë, il m'a dit un jour, bah écoutez, parce qu'à l'époque, la Tarentelle, le titre proviseur, c'était La Petite Tarentelle. Ouais. J'avais écrit Petit Patron, j'avais écrit Le Petit Pont de Bois. Il me dit, voilà, je vais vous dire un truc. Vous écrivez bien, mais tout ce que vous écrivez, c'est petit. C'est Le Petit Pont de Bois, c'est Le Petit Patron, c'est La Petite Tarentelle. Moi, je voudrais vous apprendre à écrire grand.
C'est très joli. En tout cas, voilà des personnages, oui, que vous évoquez dans votre livre. Et puis, vous nous rappelez aussi, moi j'avais oublié, vous êtes petit-neveu d'Alfred Dreyfus, le oui. Capitaine Dreyfus.
Oui.
Voilà. Qui était un personnage dans votre enfance dont on parlait beaucoup, dans votre famille, qui était resté très présent ou vous y êtes intéressé davantage par la suite?
Il était très présent par son absence.
Par son absence.
Dans notre famille à nous. Ouais. C'est-à-dire
on n'en parlait pas, justement.
Mon père n'en parlait pas
ouais.
Et il ne voulait pas en parler. Et puis il y avait une très grande zone de silence. Et finalement, je crois que c'est cette zone de silence qui m'a interpellé
ouais.
En me disant, mais pourquoi? Et j'ai commencé à étudier l'affaire et je me suis dit, non, là, il n'y a pas quelque chose de honteux. Il y a au contraire quelque chose de lumineux. Parce ouais. Que cet homme qui a été accusé de la pire trahison pour un homme loyal vis-à-vis vis-à-vis de son pays. D'abord, il était innocent. Et ensuite, il y a juste la fierté à être son descendant.
Exactement.
Et donc, j'ai commencé à penser, moi aussi, à porter la mémoire de son innocence.
Et vous en avez fait une chanson qui s'appelle Dreyfus en 97, et puis un spectacle, on peut dire, qui a suivi.
Après, c'est la tonalité en fait de cet album qui portait la chanson Dreyfus. Il y avait la tibétaine, engagement sur la liberté du peuple tibétain. Il y avait une chanson sur Yitzhak Rabin parce que j'avais été frappé par le discours et la dignité de sa petite fille Noah lors des obsèques de Yitzhak Rabin. Elle avait dit :« Vous avez perdu un grand homme, un homme d'État. Moi, j'ai perdu mon grand-père. » Et tout d'un coup, j'ai été frappé par l'émotion qui a saisi à la gorge et au cœur tous ces chefs d'État réunis qui avaient fait des grands discours institutionnels. Et elle arrivait et c'était tout d'un coup un humain.
Voilà. Et toute cette thématique s'est retrouvée donc dans un même récital.
Oui, enfin, d'engagement, même la légende des arbres, qui était un engagement sur les forêts, etc. Enfin, il y avait toutes sortes de déclinaisons d'engagement qui ont découlé effectivement de ce sentiment d'être porteur d'un héritage.
Vous auriez pu en faire une comédie musicale de Dreyfus, au fond. C'est presque un sujet...
Non, parce que je pense que c'est un sujet avec lequel on peut difficilement... comment dire, faire un spectacle. C'était un anti-spectacle. Dreyfus a été le grand absent de l'affaire Dreyfus. Il était au secret depuis les premiers jours, jusqu'à sa sortie de ce bagne...
De Cayenne.
Il fallait le ramener sur le devant, dans la lumière. Et c'est ce qu'a fait Jacques Chirac en écrivant une lettre extraordinaire à la famille Dreyfus et à la famille Zola, qui a quand même aussi, lui, mis sa carrière en balance et sa célébrité. Il avait tout à perdre, et il a tout perdu, d'ailleurs, mais tout sauf l'honneur et la dignité, en fait. Et donc, je crois qu'il y a eu un basculement à ce moment-là, effectivement.
Alors, à propos de comédie musicale, justement, je vous demandais si vous aviez curiosité pour ce genre-là. Vous m'avez cité tout de suite plein d'exemples, entre Belle de Notre-Dame de Paris, ou aussi évidemment Émilie Joly de Philippe Châtel, qui a été, je crois, un de vos amis les plus proches et dont vous parlez dans ce livre.
Oui, absolument.
Comment tu t'appelles?
A440.
Est-ce que tu me trouves belle?
Ah, vraiment charmante. Sur la planète Fa.
C'est très loin d'ici.
Non, ma galaxie n'est pas loin d'ici. À 1 million d'années-lumière de ta petite Terre.
Qu'est-ce que vous y faites?
Nous, on fait la fête.
Ça, c'est fantastique.
Et toujours en musique.
Dis où c'est chez toi?
Sur la planète Fa.
C'est très loin d'ici.
Non, ma galaxie n'est pas loin d'ici. À 1 million d'années-lumière de ta petite Terre. Je suis un fils du solfège. Je monte la gamme et je redescends. Dans mes poches il y a des bémols et des dièses, des temps et des contretemps. Et je suis marié à une portée noir sur blanc, qu'elle est jolie. Son prénom c'est Symphonie. A440.
Est-ce que tu me trouves belle?
Ah, vraiment charmante.
Emmène-moi chez toi.
Sur la planète Fa?
Oui, c'est ça.
Je t'emmènerai un jour si tu veux. Mais pour l'instant, profite de ce que tu as sous les yeux. Je suis un fils du solfège. Je monte la gamme et je redescends. Dans mes poches, il y a des bémols à des dièses, des temps et des contretemps. Adieu, Émilie. Je devrais être parti. Symphonie m'attend là-haut. Avec do, ré, mi, fa, sol et la si do.
Retrouve planète Fava prévue dans 4 secondes. 3 fois. 0
Il est parti.
Alors tourne la page.
Qui il est parti, Philippe Châtel.
Il est parti.
Voilà, et vous lui rendez un joli hommage aussi dans ce livre Chemin de liberté, Yves Duteil.
J'avoue que j'ai la gorge serrée en réécoutant sa voix.
L'extraterrestre d'Émilie Joly.
C'était un trait de génie, cette comédie musicale Émilie Joly, qu'il a écrite par amour, comme ça, avec une inspiration d'une richesse et d'une légèreté. L'idée de faire participer plein d'artistes à cet enregistrement, enfin, c'était quand même quelque chose de totalement magique.
Ouais.
Et lui, il était aussi quelqu'un de magique, très sensible, extrêmement douloureux, d'une enfance de souffrance, qui a donné, en fait, une vie de souffrance aussi.
Ouais.
Ce que je dis souvent par rapport à l'amour, c'est que on peut pas mesurer l'amour, mais quand on peut mesurer quand même le manque d'amour, là, on se rend compte que ça a quand même une valeur.
À propos toujours de comédie musicale, Yves Duteil, j'ai noté que, alors plutôt à vos tout débuts, là, vous en avez interprété une avec Gilbert Bécaud. C'est bien ça, La plus belle histoire.
Alors, c'était pas avec Gilbert Bécaud, mais à l'initiative de Gilbert Bécaud, qui avait en fait décidé de créer une sorte d'opéra. Qui s'appelait La plus belle histoire, qui était l'histoire du Christ, tout simplement l'histoire de la Bible.
Ah ouais.
Et donc, ça s'est passé très étrangement, parce que j'avais à l'époque un membre de la famille Marouani. C'est la famille dont on disait
que... vous racontez d'ailleurs, ça.
Quand on demande Monsieur Marouani au téléphone un jour de première à l'Olympia, il y a les deux premiers rangs qui se lèvent.
C'est ça, voilà.
Et donc,
tous les cousins.
Voilà. Et en fait, il y avait le patriarche de la famille, c'était Félix Marouani, qui demande à son neveu... Justement, j'étais dans le spectacle, et il me voit sur scène chanter avec, Juliette Gréco. Et il dit, mais c'est qui ce Yves Duteil, là? C'est bien ce qu'il fait, il est où? En termes de, il est chez qui, quoi? Et le neveu dit, il est chez nous. Ah bon? Mais alors, il fait quoi? Et l'autre très gêné, parce qu'il faisait rien, en fait. Et le lendemain, je me suis retrouvé engagé pour La plus belle histoire, dans la comédie musicale,
voilà.
Parole Louis Amad, avec
le grand ami de Bécaud, bien
voilà,
sûr.
Ouais. Et Pierre Lanoë faisait partie du voyage. Enfin, il y avait tous les auteurs de Bécaud. Et je chantais la chanson phare.
Ah oui.
Les temps viendront, et c'était pour moi un plus extraordinaire.
Faut que j'aille chercher dans la discothèque de Radio France, alors.
Mais
quand
oui,
même.
Hein, ça s'appelle Les temps viendront, et c'était une chanson très très belle, qui est restée pour moi un des très beaux souvenirs de cette aventure.
Alors, il y a quelque chose qui, moi, me touche et m'enthousiasme, je dirais même particulièrement chez vous, Yves Duteil, c'est votre amour de la langue française, votre envie, sans aucun chauvinisme, de la défendre, et Dieu sait qu'elle en a bien besoin. Et c'est une expérience qui a été pour vous, évidemment, liée, parce que les Français, parfois, sont un peu désinvoltes sur le sujet, mais à la rencontre, évidemment, du Québec, et notamment de Félix Leclerc.
Oui, tout à fait. Félix était lui aussi un patriarche.
Ouais.
Mais je ne le connaissais pas sous cet angle. Je connaissais mal ses chansons. J'ai découvert, en fait, qui il était grâce à Jean Dufour, qui a été mon agent très longtemps et qui était aussi l'agent de Félix en France. Et quand Félix est tombé malade, Jean a demandé à tous les organisateurs de concerts qui avaient pris la tournée de Félix de la remplacer par mon spectacle, notre récital. Ça a été ma première grande tournée française. Donc, j'ai commencé à ouvrir mes ailes en étant sous la protection de celle de Félix.
Et la langue française, donc, il vous a interpellé sur le sujet. Enfin, il vous y a intéressé davantage encore que vous ne pouviez l'être déjà.
Alors, la première rencontre au Festival du Printemps de Bourges avec Félix. Et puis, deuxième rencontre, Jean nous emmène à l'île d'Orléans chez Félix.
Là où il habitait, ouais.
Et là, j'entends le discours de Félix Leclerc sur l'aventure francophone du Québec. Ouais. Et Félix qui nous dit, nous sommes 95% de francophones au Québec et nous sommes sous l'empire de la langue anglaise. Et on sentait la colère qui pointait. Et je suis revenu avec le souvenir de cette conversation et j'ai écrit La langue de chez nous.
Voilà. Dans une France qui, on peut le dire quand même, s'anglicise beaucoup dans sa pratique quotidienne.
Oui, tout à fait, sans avoir conscience d'une déperdition. Simplement, c'est un combat à armes inégales, mais en tant que francophone, on n'imagine pas la puissance qu'on a dans le monde. On est plusieurs centaines de millions à partager l'amour de cette langue, y compris avec des écrivains qui ont choisi le français qui n'était pas leur langue maternelle. Et pourquoi est-ce qu'on serait moins que les autres? Pourquoi est-ce que l'anglais aurait plus le droit d'être chez lui partout? Et tout d'un coup, cette évidence m'a sauté aux oreilles. Et c'est devenu, malgré moi, en fait,
oui, vous le racontez,
une espèce de marque de fabrique.
L'hymne à la francophonie qu'on passe dans tous les congrès de francophonie, ça commence généralement par votre chanson.
Voilà, et j'en suis très heureux et je l'assume.
C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain de froment, et du Mont Saint-Michel jusqu'à la contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il en a gardé toutes les harmonies. Dans cette langue belle aux couleurs de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots, c'est d'abord en parlant que la fête commence. Et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières. Elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux, parfois même aux torrents qui charrient du tonnerre, en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. C'est une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, mais pourtant si féconde. Enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan, elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique, elle a quitté son nid pour un autre terroir, et comme une hirondelle au printemps des musiques, revient nous chanter ses peines et ses espoirs, nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout, pour imposer ses mots jusque dans les collèges, et qu'on y parle encore la langue de chez nous. C'est une langue belle qui sait la défendre, elle offre les trésors de richesses infinies, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie.
La langue de chez nous, par Yves Duteil, que j'ai la grande joie de recevoir ce matin et que je vais appeler maintenant Monsieur le Maire, parce que vous avez été pendant de longues années maire d'une commune de la région de l'Île-de-France qui s'appelle Précy-sur-Marne. Et vous en parlez aussi dans votre livre, et vous vous êtes donné avec beaucoup d'engagement à cette fonction, sans en faire juste comme ça une espèce de d'image qui serait venue s'ajouter à votre figure médiatique de chanteur. Non, non, vous avez fait ça avec le plus grand sérieux. Hein.
Enfin, vraiment sérieux, je vous le confirme, et en même temps avec la volonté de séparer les genres,
voilà, c'est ça.
De cloisonner en fait le maire, l'artiste. C'était pas le même registre. C'était en fait, je suis devenu maire un peu par hasard, parce que quand vous avez la notoriété, vous êtes en position de faire entendre votre voix.
Voilà, et là, il y avait un projet de carrière assez destructeur pour l'environnement de cette commune où vous étiez installé. Voilà. Et là, vous avez commencé à vous mobiliser et ça vous a conduit jusqu'à la mairie.
En exactement. Et en fait, on a assumé ce rôle, on a appris sur le tas, comme on dit, avec les habitants. C'est devenu comme une seconde famille, en fait. Quand vous avez 410 personnes et que vous êtes le maire d'une commune, vous êtes un peu le responsable, mais vous n'êtes pas le patron, en fait.
Moi, j'ai toujours détesté ça. Reprises.
Ce côté, on représente les gens qui vous ont élus pour parler à votre, pas à leur place, mais en leur nom, voilà. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Noël, qui était maire adjoint aussi, pendant tous ces 25 ans de vie municipale. Et oui. Alors, pendant tout ce temps-là, en fait, on a essayé quand même de cloisonner, de rester d'un côté maire et maire adjoint, et de l'autre côté artiste et créateur. Et finalement, ces deux rôles qui peuvent paraître antagonistes, et qui le sont, sont très complémentaires. Parce que dans les deux cas, vous êtes un rêveur qui rêve utile. Vous êtes un créateur en tant qu'artiste de choses immatérielles qui n'existent pas. Mais en tant que maire, vous allez être l'animateur qui va créer des projets qui sont à la mesure du rêve de ceux qui vous ont mis les clés entre les mains pour essayer de gérer leur avenir, leur présent et défendre leurs intérêts.
Et parfois les catastrophes aussi, parce que c'est les bords de la Marne, il y a eu des problèmes de crues terribles. Hein, et vous parlez de toute la campagne que vous avez menée par rapport aux habitations menacées, etc.
Voilà, et ça fait partie des choses totalement inattendues. C'est-à-dire qu'on a été amené à être trouver des solutions inédites et quasiment illégales pour solutionner des problèmes qui étaient vraiment très importants et qu'on a vu ensuite se reposer pour les tempêtes, la tempête de Xynthia, etc. Des gens qui sont morts aussi dans des inondations parce qu'ils avaient construit dans des zones qui étaient réputées inondables mais dont on avait perdu le souvenir de l'inondabilité.
Vous parlez aussi dans ce livre de votre amitié, hein, vous en parlez d'ailleurs très, très joliment et spontanément avec Jacques Chirac, hein, qui était quelqu'un de proche de vous, qui vous a même rendu des services dans vos fonctions quand vous avez eu besoin de son aide, et voilà, qui était quelqu'un, comme on le sait, mais qui paraît très sympathique quand vous le racontez, en tout cas.
Bah, il paraît pas, il est, en fait, il était. Et effectivement, c'est toute sa faute, hein, ouais. Parce que quand il nous a dit, quand on est allé le voir, parce qu'il était maire de Paris et qu'il avait l'emprise du canal de Lourdes qui était au bord de cette fameuse carrière qu'il devait ouvrir, etc., on était allé voir le maire de Paris. Et en fait, il nous a dit, bah, vous n'avez qu'à devenir maire. Et alors, ça a été le début, en fait, et la suite, effectivement, c'est qu'on l'a fait. C'est qu'on a été amené à le faire, et que du coup, effectivement, on a ensemble traité des dossiers qui n'avaient pas forcément à voir qu'avec les carrières de granulats. Il y a eu aussi la liberté du peuple tibétain, il est intervenu pour la libération de Nawang Sangdrol, il est intervenu pour la chanson française, pour les quotas de diffusion, et bien d'autres sujets aussi, l'environnement, etc.
J'ose ajouter quand même, Yves Duteil, que dans un milieu, on peut dire, de la culture, qui, on le sait quand même, très majoritairement de gauche, même si Lynn Renault vous a précédé, c'est pas forcément si facile que ça de se dire chiracien.
Non, parce que d'autant plus que chiracien ne veut pas dire de droite, parce que ouais. Ni de gauche, ni de droite d'ailleurs. Ouais. Mais en fait, nous n'avons jamais été encartés en quoi que ce soit. Voilà. Donc, écartés parfois, mais encartés non.
Mais parfois, certains ont profité de cette amitié revendiquée pour ironiser un peu ou persifler ce que vous qui seriez un chanteur de droite, non?
Bah, de toute façon, on est toujours là pour en prendre plein la tête, quoi qu'il arrive. Il faut se préparer dès qu'on est un peu au-dessus de la mêlée en termes de portée de voix à recevoir la polémique en retour. Donc, j'ai toujours assumé ça. Et ouais. J'en ai souffert, mais je ne le regrette pas. Ouais. Parce que j'ai toujours dit ce que je ressentais et je pense que ça n'a jamais été pour moi une prise de position sur l'échiquier politique. Ça a toujours été un choix humain. Et le Chirac qu'on a connu, nous, c'est un Chirac humain. C'est voilà. Quelqu'un qu'on a vu à l'œuvre au quotidien et dans ses engagements, qui nous a jamais laissé tomber, qui nous a suivis dans nos épreuves, qui a appelé pour demander des nouvelles de Noël quand elle était malade, qui nous a vraiment soutenu le moral pour nous aider à nous sortir de cette mauvaise passe, et qu'on a toujours admiré pour ses gestes de bravoure, comme par exemple refuser d'aller faire la guerre en Irak. C'était quand même des grands moments qu'on peut pas oublier. J'étais triste de cette fin de carrière politique qui a, à mon avis, contribué à le rendre malade, et qui était très injuste à son égard, parce que c'est pas un hasard si aujourd'hui c'est un des hommes les plus populaires de France en termes de politique, mais humainement, franchement, je vous assure qu'il valait le coup.
Alors humainement, Yves Duteil, il y a quelqu'un qui est très proche de vous aussi. On a parlé des duos, alors on va en écouter un second après celui de Jeanne Moreau. C'est Véronique Sanson qu'on retrouve avec vous donc dans cette chanson intitulée « Mélancolie ».
Les gens vous voient, mais leur regard s'étonne. Il y a des jours où l'on n'est plus personne. Comme au milieu d'un cinéma désert, on rembobine et tout passe à l'envers. Et quand on pense aux gens qu'on abandonne, il y a des jours où l'on n'est plus personne. La, 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 la. Il y a des jours où l'on n'est plus personne. Ouvrir son cœur à tous les vents qui passent, et qu'un matin tous les chagrins s'effacent.
des jours où on n'est plus personne.
Quand le jour se lève, on voudrait rentrer tout au fond du rêve et s'endormir lorsque le clocher sonne. Il y a des jours où on n'a plus personne.
Mélancolie, Véronique Sanson et Yves Duteil, un duo que vous avez enregistré ensemble mais que vous avez souvent chanté à distance, hein, vous l'expliquez dans le livre. Hein.
Oui, c'était un duo virtuel, elle avait accepté d'enregistrer une partie vidéo qui était projetée sur un écran, en fait elle commençait, moi je la rejoignais, un peu à la façon de La Rose Pourpre du Caire, où je rentrais en fait dans son univers sur l'écran et où je revenais sur scène en lui faisant un clin d'œil et en fait c'était incroyable l'effet de ce duo. Mais Véro, c'est ma petite sœur, c'est vraiment comme ma petite sœur, je l'adore et j'ai une tendresse inouïe, infinie pour elle.
Voilà, et elle fait partie de tous ces personnages dont vous parlez avec beaucoup de chaleur dans ce livre, hein, Chemin de liberté. On aurait pu évoquer Barbara aussi, qui en plus était une de vos concitoyennes.
Nous administrée de Précis, atterri sur ce village où elle venait de s'installer l'année d'avant.
Voilà, et puis il y a des vrais bonheurs d'écriture aussi dans ce livre. Tiens, je vais lire ce petit passage. Pour écrire une chanson, attrapez un courant d'air avec un filet à papillons, mélangez-y quelques terrifiants pépins de la réalité, laissez s'évaporer l'amertume et séchez un peu le temps de vous relire, émincez quelques phrases pour écrire moins gras, accompagnez d'un peu de grave, servez frais dans un verre de 8 pieds, faites rimer le parfum de l'aventure avec le charme de l'inattendu, etc. etc. Mais c'est joli, hein.
Bah, en fait, ce livre, je l'ai écrit un peu comme on fait une chanson.
Voilà.
J'ai écrit des choses qui, pour moi, étaient à la fois poétiques, mais très réelles. C'était ce fondement de contenu qui fait que la poésie prend son envol en se lançant du sol et en ayant gardé les pieds sur terre.
Voilà, et il sort en même temps donc que ce quadruple CD, hein, de 75 chansons, dont 16 versions inédites, notamment des versions en public, hein, que vous avez donc,
oui, qu'on a retrouvées, qui étaient enregistrées en multipiste, qui nous a permis de les mixer et de les avoir dans la plus belle qualité.
Voilà, et maintenant Yves Duteil, prochain chapitre.
Mes 100 ans de chansons. Non, je plaisante. Hein.
Vous viendrez avant, déjà pour les, voilà.
Pour les
60. Pour les
50, pour les 50 c'est l'année prochaine.
Voilà. Bon. Merci, j'espère bien que vous serez avec nous. Merci beaucoup Yves Duteil.
Avec grand plaisir, merci.
Vous avez appris la danse, danse, vous avez appris les pas. Redonnez-moi la cadence, dansez, venez danser avec moi. Ne me laissez pas la danse, danse pas la danse, c'est comme ça. Venez m'apprendre la danse, danse et la danser avec moi. Vous savez la tarentelle, telle qu'on la dansait autrefois. Moi je vous montrerai celle que demain l'on dansera. Si vous donnez la cadence, danse, moi je vous donne le la. Je vous la prendrai la danse, 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 joli petit bois. Et si vous aimez ma danse, danse, et si vous aimez mon pas. On pourra danser, je pense, pense, aussi longtemps qu'on voudra. Mais ne me laissez pas la danse, danse pas la danse, cet état-là. Ne pensez-vous qu'à la danse, 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 joli petit bois. Quand le feuillage est si dense, dense, quand le soleil est si bas. Que voulez-vous que l'on danse, danse, dans les jolis petits bois. Quand votre robe s'élance, lance, moi j'ai le cœur en éclat. Si vous perdez la cadence, danse, serrez-vous bien dans mes bras. Et s'il arrive que même, tout doucement dans le bois. J'aille vous dire je t'aime, t'aime, si le bonheur était là, là. Pour nous donner la cadence, danse, pour nous donner le la. Et pour que tout recommence, mince, tout petit pas. Vous avez appris la danse, danse, vous avez appris les pas. Pour qu'on vous aime et je pense, pense que je vous aime déjà. C'est là que finit la danse, danse là dans l'ombre des bois. Mais notre amour qui commence, mince, jamais ne s'arrêtera. C'est là que finit la danse, danse là dans l'ombre des bois. Mais notre amour qui commence immense jamais ne s'arrêtera.
Ah, je ne m'en lasse pas de la tarentelle d'Yves Duteil. Une des chansons, évidemment, que vous retrouverez sur ce quadruple CD Chemin de liberté, édition Bayard Musique. Et puis, vous pouvez également consulter le site d'Yves Duteil et lire, bien évidemment, son livre Chemin de liberté qui vient de paraître aux éditions L'Archipel.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Voilà, et sur France Musique, il va bientôt être 12h16 et nous avons rendez-vous maintenant avec notre ami Serge Elaïc. Bonjour Serge.
Bonjour Benoît.
Je suis ravi de vous retrouver, d'autant plus ravi que pour la première fois depuis très longtemps, je le dis aux auditeurs, vous êtes là comme on dit de nos jours en présentiel.
En présentiel.
En chair et en os, devant moi, il y a longtemps que ce n'était pas arrivé.
C'est exact.
Et vous allez nous parler de Charlie Chaplin, compositeur.
Absolument, et musicien, compositeur. Il est né en 1889 à Londres, et alors passionné dès son enfance par la musique, il apprend tout seul à jouer piano et violon et il deviendra plus tard, vous l'avez dit, le compositeur de la plupart des musiques illustrant ses films. Films dont il était tout à la fois acteur, scénariste, réalisateur et producteur. Trois des thèmes créés par Chaplin ont fait le tour du monde comme celui-ci.
Et chacun aura reconnu évidemment ce thème célèbre du film Les Temps Modernes. Vous avez choisi, Serge Elaïc, une version de l'excellent chef d'orchestre et compositeur allemand Bert Kempfert.
Absolument. Et alors, de plus, dans ce film Les Temps Modernes, il datant de 1936, eh bien, Charlot interprète dans une langue mystérieuse qui mêle à la fois français et italien, et peut-être autre chose d'ailleurs, l'ancienne chanson française Je cherche après Titine.
Ah, dont... merci, oui. Merci de le dire, parce que les gens croient parfois que c'est une chanson de Charlie Chaplin pour Les Temps Modernes.
Eh bien, non. La musique fut écrite en 1917 par Léo Daniderf et joué ici par l'orchestre de Stanley Black.
La chanson incompréhensible entonnée par Charlot dans Les Temps Modernes qui nous rappelle d'ailleurs combien le musical ou le café-concert français de l'époque était connu à Londres puisqu'il a choisi donc cette chanson Je cherche après Titine. Et vous, Serge Elaïc, ce matin, vous nous avez choisi de nous promener dans le monde de Charlot avec bien sûr des versions qu'on pourrait dire de musique légère, hein, comme celle-ci, Stanley Black.
Absolument. Alors, à côté de la musique pour Les Temps Modernes en 1936, eh bien, Sir Charlie Chaplin, puisqu'il sera un jour anobli par la reine d'Angleterre, eh bien, Chaplin écrira les musiques des films Les Lumières de la Ville en 1931, Le Dictateur en 1940 ou encore Les Feux de la Rampe en 1952 avec la célébrissime chanson Deux petits chaussons de satin blanc.
«
chaussons de satin blanc sur le cœur d'un clown dansait gaiement. Il tournait, 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 tournait toujours. Plus il tournait, plus il souffrait du mal d'amour. De petits chaussons de satin blanc sur le cœur d'un clown dansait gaiement. À 20 ans, on ne sait pas.
La chanson des Feux de la Rampe par Mireille Mathieu en 1974, puisque ce matin nous nous promenons dans le monde de Charlie Chaplin et de ses interprètes avec donc Serge Laïc.
Alors, un petit retour en arrière à présent, cher Benoît. 2 ans après son chef-d'œuvre La Ruée vers l'or, eh bien, Chaplin vit en 1927 des moments très douloureux. Il est en cours de divorce et réside à New York, où il rencontre très souvent son ami, le caricaturiste Ralph Barton, marié à l'époque à la compositrice française Germaine Taillefer. Cette dernière avait fait partie, vous le savez très bien Benoît, du groupe des Six qui réunissait Darius Milhaud, Arthur Honegger, Georges Auric, Francis Poulenc et Louis Duret. Et grâce aux archives de l'INA, eh bien Germaine Taillefer évoque Charlie Chaplin qu'elle avait parfaitement connu à New York en 1927.
Charlie était vraiment submergé d'ennui, de chagrin, de déception. Et la première personne qu'il a voulu voir, c'était son vieil ami Ralph, mon mari. Et il est venu pratiquement habiter chez nous. Je dis habiter chez nous parce qu'il faisait une courte apparition dans les matinées chez son avocat. Et aussitôt après, il est venu à la maison pour déjeuner, dîner, rester toutes les soirées très très tard. Il a été très intéressé par la musique. Alors, comme il était chez une musicienne, naturellement, il me faisait 1000 questions. Et je me suis aperçue qu'il jouait lui-même très bien du piano. Il passait son temps à improviser, il avait une certaine vélocité, il faisait des petits très rapides et très jolis. Il ne jouait pas du tout comme les gens qui ne connaissent pas la musique. Il faisait des accords, il cherchait des roulades, il cherchait des choses. Il avait cette même curiosité de tout, il voulait vraiment bien connaître la musique et le piano. Toutefois, il était impossible de lui apprendre les notes. Mais quand j'ai vu les dons extraordinaires qu'il avait, je l'ai conseillé d'écrire lui-même la musique de ses films. Il trouvait des thèmes qui étaient tellement comiques, qui lui ressemblaient tellement, qui étaient tellement son personnage, que je l'ai incité beaucoup à faire la musique lui-même. Et ce que je lui avais dit a été efficace, puisqu'à partir de ce moment-là, il a toujours écrit lui-même la musique de ses films. Enfin, lui-même avec des collaborations de gens qui les orchestraient. Enfin, toutes les idées sont lui, tous les thèmes sont lui.
Thank you.
Lantern Rag, le rag de la lanterne verte, une musique écrite par Charlie Chaplin pour son film Une vie de chien, et c'était l'orchestre André Costellanets en 1977.
Oui, alors en fait, Benoît, à partir des années 50 et jusqu'à sa disparition, Chaplin resonorisera tous ses anciens courts-métrages silencieux comme Une vie de chien,
voilà.
Absolument. Le film daté, lui, de 1918. Alors, le dernier film de Charlie Chaplin, La Comtesse de Hong Kong, sort en 1967 avec à l'affiche Marlon Brando et Sophia Loren. Chaplin vivait alors en Suisse depuis 1953, après avoir dû quitter les États-Unis. Et s'il avait écrit le scénario, s'il était le réalisateur et le compositeur de la musique de La Comtesse de Hong Kong, fait rare dans sa filmographie, Chaplin ne joue qu'un tout petit rôle dans ce film.
This is my song. Here is a song, a serenade to you. The world, it cannot be wrong. If in this world there's you, I care not what the world may say. Without your love, there is no day. So love, this is my song. Here is a song, a serenade to you.
This is my song, c'était évidemment la musique de Charlie Chaplin pour La Comtesse de Hong Kong par l'orchestre Ernie Freeman et Frank Sinatra en 1967. Merci Serge pour cette belle chronique qui m'a donné le plaisir de vous revoir.
Merci, ben, et moi donc. Alors juste un mot pour dire que dans la nuit du 24 au 25 décembre 1977, Charlie Chaplin s'éteint à 88 ans et nous laisse des films cultes et plusieurs mélodies inoubliables comme on a pu les écouter. Voilà, merci Benoît et à la prochaine fois.
À très bientôt Serge. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duterte préparée par Annie Comier. Aujourd'hui à la technique Xavier Hatto, Stéphane Poitevin avec Déborah Dagobert, réalisation Christine Amado. Et on se retrouve bien sûr samedi prochain, j'aurai le grand plaisir d'accueillir Didier Bourdon. D'ici là, bon week-end à tous.
À réécouter sur francemusique.fr.